Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici dans cette salle à Merin Village, dans cette église évangélique. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent depuis chez eux. Bienvenue aux enfants. Bienvenue peut-être à vous qui nous visitez pour la première fois ou qui êtes de passage. Soyez en tout cas accueillis par Jésus-Christ dans cette église de Merin. Je vous propose que nous introduisions par la prière. Oui, Seigneur Jésus, merci pour nous avoir rassemblés aujourd'hui, nous soyons ici ou à la maison. Merci pour toutes ces générations qui sont là. Merci aussi pour ta présence, nous voulons l'invoquer, nous voulons que tu sois présent parmi nous. Vraiment, c'est notre but, c'est de pouvoir t'honorer, de pouvoir aussi entendre ta voix. Donc, Seigneur Jésus, sois présent parmi nous par ton Esprit Saint. Et Seigneur, que ce soit un bon moment aussi de convivial, aussi de paroles, d'amitié, d'affection. Et Seigneur, que nous puissions partager ensemble ce temps avec, tout particulièrement avec toi et en communauté. Alors Seigneur, bénis-nous par ta présence. Amen. Alors nous allons tout de suite commencer par une petite annonce et je vais appeler Sébastien et Eleonore.
Bonjour tout le monde. Salut. Je m'appelle Sébastien Heiniger et je viens pour faire une petite annonce pour un camp qui va se dérouler dans les murs de cette église pendant les vacances d'octobre. Mais comme les enfants vous êtes là, plutôt que de faire une annonce classique, j'ai décidé que ce serait plus sympa de raconter une histoire. Alors, il faut juste que je prenne la première page. Ok, vous êtes prêts ? Il était tard et ça faisait longtemps qu'il faisait nuit. Alors Abraham était couché dans son lit à chercher le sommeil. Je vais juste prendre mes notes, excusez-moi. Voilà. Dans le campement, le silence était aussi épais que cette nuit noire sans lune. De temps à autre, le silence était percé par le bêlement d'une des bêtes de ses nombreux troupeaux. Mais Abraham était tranquille, parce qu'il avait de nombreux bergers, et il savait qu'il veillait sur ses brebis. Il était seul dans sa tente, allongé, et ses doigts, sans même qu'il y pense, commençaient à caresser l'étoffe sur laquelle il était allongé, une étoffe douce et exquise, de la soie que des marchands de Perse qui allaient en Égypte lui avaient vendue, parce qu'ils étaient passés par le pays dans lequel vivait Abraham, qui s'appelait Canaan, et ils étaient passés dans les territoires de Mamré, l'ami d'Abraham, qui avait une forêt dans laquelle Abraham avait posé son campement. Abraham, en effet, ne possédait pas de terre. Cela faisait longtemps qu'il avait quitté le pays, bien des années auparavant, le pays qui était le sien, le pays qui était sa patrie, où il avait des terrains, etc. Mais il avait tout quitté pour aller dans ce pays où il vivait maintenant. Parce que, comme nous les racontent les Écritures, Yahweh avait dit à Abraham de tout quitter pour se rendre dans le pays qu'il lui montrerait. Qui est ce Yahweh ? Me demandez-vous, on est encore au tout début du livre, dans l'histoire que je raconte, et on est encore en train de découvrir qui il est. Et Abraham aussi le découvre. On sait encore très peu à son sujet, mais il est écrit que ce Yahweh est le créateur des cieux et de la terre, et de toi, et de toi, et de toi. Et de Claudie. Yahweh avait dit ceci à Abraham. Je ferai de toi une nation et je te bénirai. Et il est vrai que depuis, Abraham avait prospéré. Ses troupeaux n'avaient cessé de grandir et ses serviteurs étaient nombreux. Mais cette nuit-là, Abraham ne trouvait pas le sommeil et il se demandait si cette opulente prospérité était une bénédiction, plus précisément la bénédiction promise. Et il faut dire que ce jour-là, une vieille douleur s'était ravivée en lui. C'était à la fin de l'après-midi. Les bergers rentraient au campement avec toutes les brebis. Et une petite fille s'était élancée depuis les tentes, en courant et en criant de joie « Papa !» Et elle avait sauté dans les bras de son père, qui était un des bergers d'Abraham. Abraham aurait donné toutes ses richesses, et même toutes les richesses du monde, pour qu'une petite fille coure vers lui en criant « Papa !» Mais sa femme, Sarai, était stérile. Et mois après mois, et année après année, à force d'espoir déçu, Le cœur d'Abraham s'était enlisé dans une indifférence, indolore, mais indifférent. Jusqu'à cet après-midi-là, quand ce cri de jubilation avait à nouveau percé à travers cette protection qu'il avait mise autour de son cœur. Abraham, maintenant, était un vieil homme, et Sarai, sa femme, était une vieille femme. Il n'y avait plus rien à espérer. Et Abraham se trouvait seul, sous sa tente, avec son cœur qui ne savait plus consoler. Et c'est ce moment-là que Yahweh choisit pour rendre visite à son ami. Et Abraham, je t'ai bien promis un fils et une descendance. Viens, sortons de ta tente. Et ils sont sortis de leur tente dans un de ces ciels que nous ne connaissons plus, qui sont des ciels, des cieux, quand il n'y a pas de lumière. Imaginez, on est il y a très longtemps, il n'y a pas d'électricité, il y a peut-être un ou deux feux de camp des bergers qui sont en train de garder les brebis, les troupeaux, les vaches et les chèvres, mais il n'y a pas une seule lumière. Et les étoiles vont de l'horizon à l'horizon, à l'horizon, à l'horizon. C'est comme si vous êtes sous un bol, couvert de millions et de millions d'étoiles. Et Yahweh dit à Abraham, compte les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Mais est-ce que je l'ai déjà compté cela? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Et Abraham compta et compta. La nuit se termine et le jour commence à se lever à l'est sur les montagnes. La lumière du jour commence à percer. Ça faisait longtemps qu'Abraham avait arrêté de compter. Il était certain qu'il n'y arriverait pas. Allongé sur le dos avec son ami, il sentit que son cœur, gentiment, commençait à se pencher, commençait à s'ouvrir et au cours de cette nuit à contempler la beauté des cieux que son ami avait créée. Son cœur a commencé à s'ouvrir à nouveau. Et là, c'est comme si son centre de gravité a pu basculer dans l'ami qui était allongé à côté de lui. Et il lui fit confiance. Je t'offre mon cœur, la souffrance qu'il peut vivre, les joies qu'il peut vivre. Tiens, je les mets entre tes mains. Les étoiles disparaissaient peu à peu, parce que le jour se levait, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une, l'étoile du matin. Et là, Abraham compta une, et il se mit à rire. Merci beaucoup. Mon histoire s'arrête là. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier la communauté qui est ici présente, le conseil, le pasteur et vous tous, de nous accueillir parmi vos chaînes, parce que la Grande Semaine va planter son campement ici pendant la semaine d'octobre. Nous raconterons des histoires, nous ferons des bricolages. Notre grand défi, enjeu, désir, aspiration, c'est de présenter ces étoiles aux enfants qui puissent être émerveillés par la beauté, et que leur cœur puisse s'incliner et s'offrir à celui qui est digne de cette confiance. Merci beaucoup pour votre accueil. Je reste là, ma femme aussi à disposition si vous avez des questions, etc. etc. Attends, je fais plein de feintes parce que comme ça Claude il se relève. Et... Donc on est là pour vos questions. Si certains ont envie de faire partie de l'équipe, il y a de la place dans l'équipe, vous êtes vraiment les bienvenus. Simplement venez m'en parler, comme ça je peux donner plus de détails à ce qu'on fait, comment on fait, pourquoi on le fait, etc. Mais voilà, cette petite histoire en introduction, plus sympa il me semble que les annonces. Et je te repasse le micro. Cette fois-ci pour le vrai. Merci beaucoup.
Merci Sébastien. Donc pendant la semaine des vacances scolaires, donc vous pouvez inscrire vos enfants à la grande semaine de Kids Game. Voilà, j'ai encore quelques annonces, je fais vite. La première, c'est mercredi, donc redémarre Parole et Silence ici à la chapelle. Donc ça a lieu tous les deuxièmes mercredis du mois entre 18h et 19h à la chapelle, donc ça a lieu là-bas. Ensuite, jeudi, donc il y a le groupe homme qui se réunit à 18h30 ici dans la salle des Lucioles en bas. Donc bienvenue à tous ces messieurs. Ensuite, est-ce que vous savez ce qu'il y a dimanche prochain? Qu'est-ce qu'il y a dimanche prochain ? Qu'est-ce qu'il y a dimanche prochain ?
On est à Locarno, nous.
Là, il y a la fête de l'église, oui, effectivement. Et qu'est-ce qu'on y fait à la fête de l'église ? Qu'est-ce qu'on fait à la fête de l'église ?
Un brunch.
Un brunch ? Des jeux ? Et à quelle heure ça a lieu ? 11h, ça vous a bien, ça c'est bien. Donc, venez pas avant 11h, à moins que ceux qui souhaitent aider à préparer peuvent venir à 10h, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on mange ?
Ce qu'on a apporté.
Exactement. Donc, c'est un brunch. Comment on appelait ça, Rebecca ? Un brunch canadien. Voilà. Et au programme, donc, nous avons des ateliers jeux, une information aussi du conseil, une clôture festive, un brunch donc pique-nique canadien, comme on a dit, un brunch canadien. Et puis, il reste encore une petite place pour quelqu'un qui voudrait faire le goûter, un petit goûter spécial. Donc, si vous voulez organiser un petit goûter, annoncez-vous auprès de Thierry. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour des annonces. Ah oui, non, il y a encore une. Alors, du coup, je vais vers Thierry. Il vous expliquera. Il y a un petit groupe WhatsApp qui est né ici sous l'égide de Thierry. Donc, je lui laisse expliquer ce que c'est.
Bon, rapidement, vous avez peut-être déjà vu passer l'info. Il y a un nouveau groupe WhatsApp. Alors, pour tous ceux qui se disent « Oh non, encore un groupe WhatsApp », rassurez-vous, ce n'est pas un groupe où il va y avoir des communications toute la semaine. C'est vraiment un groupe officiel, un canal, un petit peu en parallèle avec l'Actu Mérin, pour peut-être faire une annonce un peu rapide, un petit rappel comme ça, de la part du conseil ou de l'équipe pastorale. Donc voilà, il n'y a que nous qui allons poster là-dessus. Vous ne serez pas envahis de messages, on vous le promet. Et puis, si vous voulez rejoindre ce groupe, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire de deux manières, soit en vous faisant inviter par quelqu'un qui est déjà dans le groupe, donc posez la question autour de vous. Et puis, j'ai aussi mis ici derrière et dans le hall d'entrée des QR codes que vous pouvez prendre en photo avec votre application WhatsApp. Si vous ne savez pas de quoi je parle, prenez un plus jeune avec vous et il pourra vous aider, vous assister dans cette tâche. Donc voilà. Plus on a de monde sur ce canal, plus ça fait sens qu'il existe. Parce qu'encore une fois, on veut que ça soit un canal officiel de communication pour l'Église. Merci beaucoup.
Voilà, donc toutes ces informations, vous les retrouvez aussi sur le programme. Donc, munissez-vous-en, prenez-le, ils sont à la sortie. Donc, comme ça, vous avez tout ce qui concerne notre Église. Et voilà, maintenant je me tais et je laisse la parole à Élise et à son équipe, que je remercie déjà de leur présence.
Bonjour à toutes et à tous. Voilà, bienvenue dans ce nouveau temps de louange. Aujourd'hui, donc, on va vous accompagner avec Mathilde, à la guitare, excusez-moi, Thierry, deuxième voix, et Anne-Claude à la flûte. Donc, je vous invite à vous lever. On va louer ensemble le Seigneur.
Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque la vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Parle-nous, nous venons à toi recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par la vérité, modeler nos cœurs à ta ressemblance et que ta lumière aujourd'hui rayonne par l'amour, la foi que nous manifestons. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Apprends-nous à te révérer, à mieux t'obéir, à nous humilier. Par l'éclat de ta pureté, viens sonder, Seigneur, nos voix, nos pensées. Fais grandir la foi et que nos yeux voient ton amour sublime, ton autorité. Tes paroles toujours s'accomplissent, ta vérité chasse l'incrédulité. Parle-nous, renouvelle-nous, viens nous révéler tes plans élevés. Vérité, dès la nuit des temps, dont l'éclat résonne dans l'éternité. Par ta grâce, nous tiendrons sur tes promesses. Par la foi, nous te suivrons pas à pas. Parle-nous, bâtis ton Église et remplis la terre de ta gloire.
Je prends encore un instant pour remettre le temps que vont passer les enfants avec leur moniteur, monitrice. Seigneur, merci pour ce cadeau que tu leur fais de pouvoir participer à des temps de cette qualité, de cette profondeur, que tu puisses mettre à cœur, inspirer les moniteurs, monitrices pour semer voilà, dans leur cœur, dans leurs esprits, de belles graines qui, j'en suis sûre, voilà, germeront avec le temps. Donc, les enfants, bah, je vous invite à rejoindre du coup Rebecca. Et puis, à tout à l'heure.
Et Monique.
Et Monique. Rebecca et Monique.
Merci. Bonjour à chacun, à chacune. Dimanche dernier, nous avons donc regardé, médité, le début du sermon sur la montagne. Nous avons commencé de regarder la première partie de la première partie, à savoir les béatitudes. Matthieu 5, les versets 1 à 12 que nous relirons dans quelques instants. C'est une série qui va nous emmener pendant quelques semaines. Nous y retrouverons des punchlines de Jésus, des lignes de force de Jésus. Et pour vous qui souhaiteriez avoir le texte biblique sous les yeux, nous avons édité un petit livret avec le texte complet du sermon sur la montagne. Il y a quelques exemplaires à la sortie et puis j'en ai là aussi à disposition. Il y en a une trentaine à disposition, s'il faut, on en retirera. Vous aurez comme ça la possibilité de suivre le texte en direct et puis peut-être, si vous le souhaitez, de la noter ou de noter vos questions, vos résolutions, vos décisions au dos de ce feuillet. Il est à votre disposition. Avec quelques exemplaires encore à la sortie, si jamais il venait à en manquer ce matin. Heureux, heureuse, heureux ceux, heureuse celles. Comme dit, il ne s'agit pas de la béatitude de celui ou celle qui a bien mangé ou qui a assisté à une cantate de Bach, ou qui, comme moi, vient d'apprendre que Marcel Hugues vient de remporter le triathlon à Paris pour la troisième fois. Le triathlon en handicap, c'est quand même impressionnant, hein ? Il y a de quoi être béat d'admiration. Mais dans nos béatitudes, ou plutôt dans celles de Jésus, il s'agit du bonheur de celui ou de celle qui a la chance de se trouver du bon côté, sans prétention, du côté de l'éternité, du côté de Dieu. Et cette chance-là, c'est une grâce que Dieu nous fait. Alors ce matin, nous allons poursuivre notre méditation autour du sermon sur la montagne, et plus précisément des béatitudes. On verra jusqu'où on arrive à aller. Comme dit, c'est comme des punchlines. Hein. C'est Jésus, ça dépote avec lui, il ne tourne pas autour du pot. Les mots ne sont pas très compliqués dans le sermon sur la montagne. Ce qui est difficile, c'est leur application. Mais les mots mêmes qu'on va découvrir ce matin et dans les semaines à venir, vous verrez, ce ne sont pas des mots super compliqués. Puis ça aborde quantité de sujets hyper pratiques, très contemporains, sur nos relations interpersonnelles, sur nos relations dans la famille, sur nos relations au monde, des choses super concrètes sur lesquelles on va pouvoir s'attarder ces prochaines semaines. Mais pour l'instant, je vous invite à écouter la lecture de Matthieu 5, 1 à 12, ou de la suivre, c'est comme vous le préférez. J'ai juste pas de... Pardon.
Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui. Il prit la parole et leur donna cet enseignement. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
Merci Francine. Nous, on reprend ce matin au verset 5, où il est question des doux. Heureux ceux qui sont doux, heureuses celles qui sont douces, car ils et elles recevront la terre en héritage. On va beaucoup s'attarder sur les doux parce que je pense que ce sont sensiblement les mêmes que les humbles de cœur du verset 1. Être doux ou humble de cœur, c'est sensiblement la même chose. Mais ici, on pourrait se demander pourquoi les doux, les douces, les gens qui sont doux, recevront la terre en héritage. Alors si on pense aux psaumes où les humbles, les doux sont mis à l'honneur, on a un début de réponse. Le psaume 37, par exemple, dit ceci. « D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu demanderas où il est passé et il ne sera plus là. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une paix profonde. » Ce qu'on voit ici, c'est que dans la pensée du psalmiste, mais des Écritures en général, ce n'est jamais à un roi qu'appartient une terre. Ce n'est pas non plus au conquérant qu'appartient une terre. Ce n'est même pas aux riches qu'appartient la terre, mais c'est aux doux, aux humbles de cœur. Et je pense là à ce verset de l'apôtre Paul en Philippiens 4, verset 5, qui est un défi, je vous le dis honnêtement, considérable pour moi chaque jour que Dieu fait, où il est dit que votre douceur soit connue de tous. Ce qu'on devrait connaître de nous, c'est notre douceur. Et je pense que trop souvent, en tout cas dans ma vie, ce n'est pas ce qui est connu. La douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. La terre, elle appartient à ceux et celles qui marchent humblement avec Dieu. Être déjà aujourd'hui humble ou doux, c'est être bien positionné pour l'étape finale. C'est prendre dès le départ une longueur d'avance. J'aimerais que nous soyons connus, nous les chrétiens, comme des gens doux. Mais je crains que ce ne soit pas toujours le cas. Le verset suivant, et là je vais m'y attarder un petit peu plus. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ou heureux celles et ceux qui ont faim d'un monde juste. Vous y êtes ? Alors bien sûr, il faut qu'on se demande un tout petit peu de quelle justice il s'agit. Il est très tentant, en tout cas pour moi, d'y voir des questions de justice sociale. Et je crois que jusqu'à un certain point, ce serait tout à fait conforme à la vision globale de la Bible qui met en évidence le besoin de justice sociale. Tant que nous sommes sur terre, nous n'avons pas le droit de nous désintéresser du sort de celles et de ceux qui sont nos frères et sœurs en humanité. L'apôtre Jacques dit que nos œuvres bonnes doivent être pratiquées d'une manière visible. C'est le frère du Seigneur qui le dit. Nos œuvres bonnes, qui viennent prouver notre foi, doivent être pratiquées de façon visible. Et à ma connaissance, le groupe d'hommes qui se réunit le jeudi soir va aborder le livre de Jacques cette saison. Très intéressant, hein, la foi et les œuvres. Des œuvres qui se voient, qui montrent qu'on est sauvé, qui ne sauvent pas, mais qui prouvent notre attachement à un Dieu juste. Nous sommes les héritiers des prophètes de l'Ancien Testament, et la suite des Béatitudes vont le montrer. Des prophètes de l'Ancien Testament qui ne supportaient pas de voir les pauvres exploités et les riches comblés d'honneur. Tous les petits prophètes en parlent, sans exception. Mais ici, par respect pour le contexte, je ne peux pas seulement creuser le filon de la justice sociale à laquelle je tiens. Par respect pour le contexte ici, il me semble qu'il faut dire que Jésus vise plutôt une justice personnelle. Celle qui, selon lui, doit surpasser la justice des scribes et des pharisiens, des spécialistes de la religion. Et il dit, vous qui marchez avec moi, vous mes disciples, vous devez faire beaucoup mieux que ces brochettes de gens religieux. Le verset 20 de ce chapitre 5 le dit. Et c'est bien dans cette veine que le reste du sermon sur la montagne va se développer. Jésus vient donc mettre en avant non la forme littérale de la loi de Moïse, avec toutes les subtilités de la loi de Moïse, des subtilités juridiques qui permettent aux gens soit de s'y soustraire, soit de relativiser la loi. Mais Jésus, lui, il vient mettre en évidence l'intention profonde de la loi. Il nous appelle à la perfection. Verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et ça, ça envoie quand on parle de punchline. Soyez donc parfaits. Moi, le gars tellement médiocre, Jésus m'appelle à la perfection. Et il me sembla que ces exigences au Christ touchent nos paroles, nos pensées et nos actes. Et Jésus proclame « heureux, heureuse » non pas ceux qui auraient atteint la perfection, comme si c'était possible, mais ceux et celles qui désirent se conformer à la parole de Dieu. On pourrait parler d'intentionnalité intérieure. Vous savez, c'est comme ces chants qu'on a parfois un peu de peine à chanter. On en parle pas mal avec le groupe qui réfléchit à la louange. Ces chants où on dit « Je te donne tout ». Vraiment ? Non, pas vraiment. Parce que je reste Bibi dans ces bottes-là, dans ce monde-là. Mais Bibi dans ce monde-là, dans ces bottes-là, il le désire. J'aimerais te donner tout. Je sais mal le dire, encore plus mal le vivre, mais ces chants m'aident à l'exprimer. Et parfois, nos prières un peu maladroites viennent le dire aussi. Jésus y vise l'intentionnalité intérieure. Avoir faim et soif de justice. Je crois vraiment que c'est à la portée de tout le monde, sans exception, comme un but à viser, comme un plan de carrière, comme un pèlerinage, comme un combat, comme une course. Mais tout le monde en est capable. Ici, c'est nous laisser toucher, c'est nous laisser gagner, c'est faire ce qu'on peut, c'est prier. Le plus petit acte de bonté vaudra toujours plus que les meilleures intentions. Il serait peut-être aussi prétentieux de viser le podium, comme Marcel Hugues ou Pogacar. Mais on peut viser de finir la course sur les Champs-Élysées. On peut viser. Et à quelque part, rien de moins devrait nous satisfaire. Regardons alors un instant notre façon de courir si on est dans la course. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'avancer? Moi, je sais ce qui pèse dans ma vie. Alors, je ne vais pas le détailler là maintenant publiquement devant tous, mais si vous voulez en parler, venez me voir. Je peux vous dire exactement ce qui pèse dans ma vie. Et je me pose la question, à quel péché sommes-nous si habitués que nous ne le voyons même pas? C'est quoi ce qui nous empêche de courir? À quoi on s'est tellement habitué qu'on vit avec? La paresse? La colère? La dureté ou le cynisme envers les autres? La soif de posséder? Le désir de paraître? Puis quoi d'autre? Mille autres choses. Alors si je continue la comparaison avec le cyclisme, je pourrais dire que l'on peut avoir des problèmes avec un dérailleur ou une selle. Il y en a même qui ont des crevaisons, d'autres qui perdent l'esprit d'équipe. Puis il y a des chutes. Parfois, c'est sans gravité. On se relève fastoche, on reprend le vélo, puis c'est reparti. Puis parfois, il y a des fractures à la clé. Le besoin de soins, d'une longue réhabilitation. On peut avoir faim et soif de justice, même quand on a chuté, même quand on s'est viandé, même quand on est blessé. Parce que contrairement à ce qui se passe sur le Tour de France ou à l'arrivée du triathlon, avec le Seigneur, il n'y a aucune chute qui nous met hors course. En tout cas, si on a envie de reprendre. La chute, elle laisse des traces. Elle peut changer dramatiquement nos circonstances de vie. Mais avec Jésus, nous trouverons toujours, toujours, une main tendue qui nous relève et qui nous remet en selle, toujours. Comme celle de cette femme dite adultère, lorsque Jésus la rencontre, lorsque Jésus lui pardonne, lorsque Jésus la responsabilise. Comme celle que Thomas a trouvée après ses doutes, mon Seigneur et mon Dieu. Comme celle que Pierre a trouvée après sa trahison. Vas-y Pierre, prends soin de mon église. Avoir faim et soif de justice, je peux me tromper, mais je trouve que la piété des temps modernes, elle a pas mal changé son point de mire. Je commence à avoir un chouïa de bouteille à 52 ans. Je trouve qu'aujourd'hui, on est moins dans l'insatisfaction spirituelle et l'introspection que dans la réalisation de soi. On est plus dans la louange et moins dans la repentance. Alors je ne dis pas que c'était mieux avant, parce que ce n'était pas mieux avant. Je dis juste que c'était différent et que cette différence, parfois, elle m'inquiète. Je me demande si j'ai encore assez faim et soif de justice personnel. Et je pense que non. C'est pour cela sans doute que je suis heureux quand des coordinateurs de culte ou de réunions de prière donnent une certaine place à la confession des fautes, à la repentance, à la scène qui nous rappelle à quel point nous avons besoin du salut de Dieu, à quel point il nous accueille, il nous pardonne, à quel point un nouveau départ est toujours possible. Je crois qu'on n'apprécie pas tellement le salut si on ne sait pas d'où on a été tiré. J'ai été tiré de la misère personnelle. Ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, de justice, car ils seront rassasiés. C'est Dieu qui rassasiera. C'est au futur. Il y a toujours un décalage entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Il y aura toujours un décalage entre nos aspirations et nos réalisations. Mais ce futur, être rassasié, c'est une certitude. Dieu comblera toutes nos attentes. Dieu comblera toutes nos failles. Il effacera jusqu'au souvenir de nos fautes. Il nous rendra semblables à Jésus-Christ et il restaurera toutes choses. Un jour, nous serons rassasiés. En attendant, nous avons faim et soif. Et j'espère que nous laissons de la place pour la faim et la soif de justice personnelle. On est d'accord que nous sommes, pour une part en tout cas, le produit de notre passé. Mais nous n'avons pas à rester prisonniers de ce passé. Ces traits de caractère qui agacent ma femme, puis auxquels elle s'est habituée, eh bien un jour, ces traits de caractère y disparaîtront pour laisser la place à quelque chose de meilleur. Ces postures orgueilleuses que je prends parfois, toujours trop souvent, elles disparaîtront. Ce petit monde que je fais tourner autour de moi, de mon nombril, de mes besoins, ce petit monde-là, il disparaîtra. Ces pensées de violence, de haine, de sexualité débridée, ces pensées qui m'assaillent, qui me traversent sans que je le veuille, ces pensées, elles disparaîtront. Ces blessures psychologiques bien réelles qui m'empêchent de fonctionner normalement, elles disparaîtront aussi. Nous serons comblés. Dieu nous rassasiera. Et je crois même que dans une certaine mesure, nous commençons à être comblés déjà maintenant. Parce qu'à force de fréquenter le Seigneur Jésus, si nous le fréquentons, eh ben un peu de lui déteint sur nous, forcément. Comme quand on marche avec un ami ou un conjoint, une conjointe, un peu de l'autre déteint sur nous. Si nous cheminons avec Jésus, un peu de lui déteint sur nous. À force de nous ouvrir à la parole de Dieu, si seulement nous nous ouvrons à la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit qui l'a inspiré nous change de jour en jour. Il nous bouscule. C'est un miroir. On avance. Et à force de nous approcher de Dieu, honteux parfois, par la force de l'habitude parfois, la pensée ailleurs parfois, à force de nous approcher de Dieu, écoutez ce que dit l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 3, 18. À force de nous approcher de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire. Ça vaut le coup un dimanche matin, donné comme ça en pure perte? Sérieusement, qu'est-ce que vous faites là? Si vous cherchez à vous approcher de Dieu, jour après jour, semaine après semaine, année après année, décennie après décennie, vous êtes transformés de gloire en gloire. Le meilleur, il est à venir, mais on le goûte déjà. Je demande à Dieu de nous aider à ne jamais cesser d'avoir faim et soif de justice. Allez, trois mots encore sur la prochaine, mais je serai rapide. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui sont pleins de miséricorde, disent certaines de nos traductions. Le mot miséricordieux n'a rien à voir avec la misère. Ce mot-là, il désigne celles et ceux qui ont pitié des autres, qui qui se montre bon, fondamentalement bon envers les autres. Et ça, la bonté, c'est une valeur typiquement chrétienne. Le philosophe Nietzsche nous accusait, nous les chrétiens, d'avoir adopté cette valeur pour compenser l'impuissance d'un peuple d'esclaves qui devait à quelque part se consoler de ses frustrations. Et pour se consoler de ses frustrations, Nietzsche disait que les chrétiens étaient bons. À partir de là, vous le savez peut-être, mais Nietzsche, à partir de là, il a construit ce qu'on appelle l'éthique du surhomme, de l'homme fort, qui ne doit rien à personne, qui a le droit, si ce n'est le devoir, d'écraser les autres, les plus faibles. Être bon, disait Nietzsche, c'est être faible. Vous savez qui l'a inspiré ? Nietzsche, directement. Les nazis. Hitler. Hitler se réfère à Nietzsche pour défendre le nazisme. Être bon, c'est être faible, disait Nietzsche. Et je sais qu'il existe encore autour de nous aujourd'hui des gens qui vont prôner la loi du plus fort, les droits de l'élite, le pragmatisme intellectuel et économique, un pragmatisme qui ne veut rien savoir des faibles, qui les laisse sur la route au profit du succès des plus forts, qui vont parler de ruissellement, mais le ruissellement, il va dans l'autre sens, parce que c'est la loi du plus fort. Jésus dit, lui, heureux ceux qui sont bons, heureuses celles qui sont bonnes, ceux qui ont pitié des autres. Et ceux qui ont pitié des autres sont en fait celles et ceux qui sont du bon côté de la barrière, malgré des apparences tout à fait naïves parfois. Mais ils sont, elles sont dans le vrai. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin qu'on soit bon envers eux. Ils sont eux-mêmes pas toujours beaux, forts, puissants et parfaits. Ils ont besoin de bonté. Ils ont besoin qu'on soit indulgent envers eux, qu'on les aime au point de pardonner leurs offenses, comme ils prennent l'habitude de pardonner à ceux qui leur ont offensé. Ils savent que la loi du plus fort n'est pas l'ultime réalité. Que l'ultime réalité, c'est Dieu qui est bon et qui nous demande d'être bon. Le triomphe des sans scrupules, le triomphe des forts, c'est juste l'apparence des choses. Parce qu'il y a Dieu qui a inscrit autre chose dans le cœur humain et qui nous le rappelle de temps en temps. Dieu qui amènera toute chose en jugement. Dieu qui a montré à la croix à quel point il est fort, mais sans violence, sans pouvoir, sans violence, mais en l'absorbant, la violence. Sans pouvoir, mais en l'abandonnant son pouvoir. Sans bomber le torse, mais en renonçant à la force qui en impose, pour montrer l'amour qui donne et l'amour qui gagne à la fin. Et ici et maintenant, frères et sœurs, nous sommes appelés à exercer cette même grâce envers nos semblables, à leur pardonner comme Dieu nous a pardonné, à les aimer comme Dieu nous aime. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas reste du côté de la mort. Quiconque a de la haine pour son frère ou sa sœur est un meurtrier. Or vous savez qu'aucun meurtrier n'a de place en lui pour accueillir la vie éternelle. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Si quelqu'un a les moyens de vivre et voit son frère ou sa sœur dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu, mes enfants ? N'aimons pas seulement en paroles avec de beaux discours, mais faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Je vois devant moi de nouveau des gens inquiets, parce qu'il reste 3 béatitudes à traiter. Je ne vais pas prendre 20 minutes supplémentaires, on va s'arrêter là, puis on reprendra dimanche prochain avec les versets 8 à 12. Mais je vous propose de nous arrêter encore sur un exercice spirituel. Et je vous invite à identifier la béatitude, les béatitudes qui vous interpellent le plus. Et je vous propose d'en faire un sujet de prière. Aide-nous, Seigneur, à te ressembler, je te prie. Nous avons besoin de toi. Et je te prie de faire de chacun, chacune de nous des disciples heureux et heureuses. Amen.
Merci à Philippe. Je vous propose qu'on reste un temps dans la prière. Et puis je vous propose un peu pour clore ce message de Philippe, cette prédication, cette interpellation, que nous lisions le symbole de Nicée en restant assis et en pesant bien les mots que ce symbole nous propose. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Nous sommes, et pour le salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, universelle et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
transforme-nous pour ton royaume. Devant toi à genoux, nous te chantons un psaume. Change nos vies et nos envies. Rends nos cœurs humbles, nos bonheurs saints. Et change mon cœur, gravé de pierre, contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi ton œuvre, Père. Et change mon cœur, gravé de pierre, contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi ton œuvre, Père. Transforme-nous pour ton royaume. Devant toi à genoux, nous te chantons un psaume. Change nos vies et nos envies. Rends nos cœurs humbles, nos bonheurs saints. Et change mon cœur, gravé de pierre, contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi ton œuvre, Père. Et change mon cœur, gravé de pierre, contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi ton œuvre,
Voilà pour introduire cette sainte scène, après ce beau chant d'ailleurs. Je vous propose de lire dans Hébreu. Ainsi, frères et sœurs, nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle est vivante. Il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Paul nous encourage à approcher du sang de Jésus avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Car il est aussi notre intercesseur auprès de Dieu. Et avec cette sainte scène, avec la sainte scène, il nous encourage, il nous rappelle son rôle et nous encourage à prendre ce repas en toute conscience. Cette sainte scène nous rappelle aussi qu'elle a une dimension communautaire. Nous prenons ce repas toutes et tous ensemble. Alors veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Nous lirons l'institution de la Sainte Cène.
Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit : J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit : Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car, je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à que le royaume de Dieu vienne. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant : Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous.
Nous prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta vie donnée, pour notre salut accompli, pour ta grâce, ton accueil. On mesure un peu ce qu'il t'en a coûté et nous réalisons un peu les bénéfices immenses qui sont les nôtres. Accepte notre reconnaissance. Et Seigneur, si nous avons besoin de revenir à toi, si nous avons besoin de nous tourner initialement vers toi, viens parler à nos cœurs par ton Saint-Esprit et fais-nous cette grâce de chercher le pardon à sa source. Amen.
Voilà, donc comme à notre accoutumée, nous passerons avec le pain et les anneaux. Donc au milieu, il y a des petits godets roses où il y a du jus de raisin et à l'extérieur, c'est du vin. Et si vous souhaitez prendre la coupe, levez le dos, la main et Philippe viendra vous l'amener. Alors merci Nicolas de nous rejoindre. Et si vous, le cœur vous en dit, si vous sentez vraiment que ça vous brûle, alors si vous voulez prier, si vous voulez donner un témoignage, c'est volontiers que ce micro reste ouvert pour vous.
chanter tous ensemble. Nous cheminons tous ensemble, nous allons de l'avant avec ta parole. Nous communions ensemble en toute liberté. Quel privilège, Seigneur, de pouvoir vivre encore ce matin une telle réalité. Et une fois de plus, je me dis, mais à qui irions-nous si ce n'est à toi, toi le seul qui as la parole de vie, toi le seul qui nous accueille tel que nous sommes, toi le seul qui nous remet debout et qui nous fait vivre. Sois loué, sois béni, Père Céleste, pour tous ces cadeaux si précieux et essentiels.
La miséricorde et l'humiliation de notre Dieu. Amen.
Le chant de ressembler Jésus. Alors c'est peut-être un peu compliqué à prendre au pied levé pour vous, mais est-ce qu'on le tente a cappella? Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir et aimer toujours plus que toi. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. On le tente? On se lève? Il est là, oh, mais et la classe absolue, merci Alex. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir.
Je vous propose de rester debout. Merci en tout cas pour ce temps de Sainte-Seine. Et je crois qu'on intériorise bien cette présence du Christ qui vient, je dirais, dans nos entrailles. Et je vous propose maintenant de passer à l'offrande. Donc nous allons chanter, pendant le chant sera récolté l'offrande. Il y a également, si vous le souhaitez, un code-barre au fond de l'église ou une petite boîte. Donc c'est ou bien un QR code. Donc c'est selon vos besoins, vos envies. Donc les paniers vont passer. Merci.
Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À la l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, sois l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire, à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen.
J'aimerais remettre cette offrande. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te remettre notre offrande. Seigneur Jésus, qu'il te serve à te révéler autour de nous. Seigneur, nous voulons vraiment que tu la bénisses, Seigneur, qu'elle serve pour que les gens puissent te découvrir. Découvrir cette joie, cette paix et cette vie, ce sens de la vie que tu donnes. Alors Seigneur Jésus, nous voulons te la remettre et qu'elle soit sous ton regard aussi. Et merci pour les gens qui gèrent ces sous. Et Seigneur, que tu les bénisses aussi. Amen. Alors avant de donner la parole pour le mot d'envoi, hein, à Philippe, pardon. Juste un petit rappel, donc on vous a dit mardi parole et silence. Mercredi, pardon, parole et silence à la chapelle. Jeudi, le groupe d'hommes ici en bas. Dimanche, donc la journée d'église. Qu'est-ce que j'oublie ? Le groupe WhatsApp que Thierry a créé, donc si vous voulez. Et puis après, la grande semaine, donc allez vers Sébastien si vous avez des questions et si vous voulez inscrire vos enfants. Je passe la parole à Philippe.
Et je vous invite à vous lever pour un mot d'envoi que j'emprunte à l'un de ces fameux petits prophètes. On t'a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Qu'il nous soit en aide pour cette semaine que je vous souhaite bienfaisante. Allez dans la paix. Très bon dimanche.
Et il y a un petit moment convivial pour le café, donc restez un moment à discuter. C'est toujours sympa de boire le café ensemble.